VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Dakar, 19h à Bujumbura. Bienvenue à notre journal. On commence par l'Afrique de l'Ouest. Au Mali, rétablissement de l'état d'urgence à titre exceptionnel par le gouvernement. Une mesure valable pour 10 jours, décidée le lundi 4 avril 2016, qui est déjà en vigueur sur l'ensemble du territoire malien. La précédente proclamation de l'état d'urgence avait duré 3 mois et était arrivée à expiration le 31 mars 2016. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
C'est dans le cadre d'une démarche de prévention et d'anticipation sur les menaces réelles à la sécurité des personnes et de leurs biens que l'état d'urgence a été prorogé pour une période de 10 jours. Malheureusement, elle fait suite à un autre qui a duré 3 mois, soit du 21 décembre 2015 au 31 mars 2016. Selon le gouvernement, ce recours à l'état d'urgence a permis aux autorités compétentes de mieux circonscrire et de combattre les projets d'atteinte à la sécurité des personnes et de leurs bien, ainsi que des tentatives de troubles à la quiétude des populations à travers notamment des patrouilles, des perquisitions, les saisies d'armes, des véhicules et des interventions sur les scènes d'attaques terroristes ou des crimes. Mais sur le terrain, la réalité est tout autre. Les Maliens ne se sentent plus en sécurité car les attaques se multiplient de jour en jour. Malgré l'état d'urgence, il y a eu des attaques à Bamako, dont la dernière terroriste a été le 21 mars 2016. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Le président du Burkina Faso, Roquemont Christian Kabore, reçu aujourd'hui à l'Élysée par son homologue français François Hollande. Ce dernier a souligné dans une déclaration à la presse à côté du leader burkinabé la nécessité d'une coopération exemplaire avec les pays du G5 Sahel, frappés par une série d'attaques djihadistes. Le G5 Sahel comprend le Burkina, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad, 5 pays dans lesquels l'armée française mène l'opération anti-djihadiste Barkhane. Burkina Faso toujours, c'est demain le 6 avril que le président Roch Kabore va boucler ses 100 premiers jours au pouvoir. Comme il devait être en France à cette date, le leader burkinabé avait saisi l'occasion de la clôture de la semaine nationale de la culture au Burkina même pour faire le bilan de ses 100 jours au pouvoir. Le passage à une 5e république reste sa grande priorité. On écoute le président Kabore.
La commission constitutionnelle va être mise en place bientôt. Et l'objectif de cette commission est de discuter des réformes, je dirais, politiques qui nous permettent de passer à une 5e république. Et je ne voudrais pas dépasser l'iguane dans l'eau. Ce que je peux dire d'ores et déjà, c'est que la limitation du mandat, c'est une question sur laquelle il est impossible de revenir. Ce que je voudrais dire également, c'est que la deuxième chambre qui apparaissait comme le Sénat est définitivement supprimée. Ce que je peux dire également, c'est que la tendance est à la réduction des pouvoirs du président du Faso pour que ce ne soit plus quelqu'un d'omniscient qui décide de tout et qui a autorité sur tout.
Le président burkinabé Roquemont Christian Kabore. Au Tchad, la marche pacifique de la coalition de la société civile pour l'alternance démocratique prévue aujourd'hui a été violemment réprimée par la police. Tous les sites stratégiques de la capitale étaient quadrillés par les forces de sécurité. Le témoignage d'un manifestant recueilli par notre correspondant N'Djamena, André Kodmajingar.
Les mercenaires que l'ISDB a envoyés aujourd'hui, non seulement ils ont tiré à balles réelles et avec des gaz lacrymogènes sur la population qui est venue manifester pacifiquement, mais ils ont osé brûler le symbole de la République qui est le drapeau. Nous ne parlons pas dans le vide, mais nous parlons avec des preuves. Vous avez ici présent 4 douilles qui ont été tirées sur les jeunes qui sont sortis massivement pour exprimer leur ras-le-bol contre la mauvaise gestion de l'ISDB depuis 26 ans. Voici le drapeau brûlé et les douilles qui ont été tirées sur la population. Nous déplorons également l'arrestation de certains de nos collègues. Oui, il y a des arrestations. 4 ont été arrêtés, il y a un qui a été gravement blessé.
Par la police ?
Par la police. Nous sommes pacifiques.
Des participants à la marche de la société civile à N'Djamena pour l'alternance démocratique au Tchad. Au Congo-Brazzaville, la Cour constitutionnelle a validé la victoire du chef de l'État sortant Denis Sassou Nguesso à la présidentielle du 20 mars. Mais sur le terrain, le climat reste tendu, les quartiers sud de la capitale étant toujours quadrillés par un important dispositif militaire. Au lendemain d'échanges de tirs ayant contraint des milliers d'habitants apeurés à fuir vers le centre de Brazzaville. Des détails avec Tatiana Mosso.
Après 32 ans au pouvoir, Denis Sassou Nguesso a été réélu dès le premier tour avec 60,19% des suffrages exprimés. Selon Auguste Iloki, président de la Cour, le taux de participation a été de 68,92%. Des échanges de feu ont encore été entendus lundi en fin d'après-midi, mais la nuit a été calme. Un premier bilan d'une source policière fait état de 3 policiers et 2 assaillants tués. Les bérets noirs de l'armée ont pris la relève des éléments de la garde républicaine sur les principaux points stratégiques de la ville. L'armée a mis en place de nombreux barrages et des soldats fouillaient les rares véhicules dans la circulation. Des milliers d'habitants du sud de Brazzaville ont fui vers le centre-ville. Le gouvernement congolais accuse les miliciens Ninja Nsilulu d'avoir mené cette attaque contre des bâtiments publics. Les autorités ont ouvert une enquête pour voir s'il existe un lien entre ces attaques et les candidats de l'opposition qui avaient appelé à la désobéissance civile pour contester la réélection du président Denis Sassou Nguesso.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Gabon, le président démissionnaire de l'Assemblée nationale, Guinzou Bandama, a annoncé aujourd'hui sa candidature à la présidentielle de 2016. Après environ 20 ans à la tête de l'Assemblée, il dit maintenant avoir décidé de se mettre à l'écart du PDG au pouvoir et de faire concurrence au président Ali Bongo Ondimba, candidat à un second mandat. Pour sa part, revenu à Libreville après sa visite à Washington, le président Ali Bongo Ondimba a comme sonné le rappel des troupes. Il a reçu hier une centaine de députés du PDG, le parti au pouvoir, après la dernière série de démissions au sein de la majorité. Idriss Fall.
Ali Bongo a rappelé aux députés venus au palais présidentiel que l'heure est au rassemblement. André Diodonébert, président du groupe parlementaire du PDG, lui a assuré que les démissions n'affectent pas beaucoup le nombre de parlementaires qui lui sont toujours fidèles. Le PDG avait près de 113 sièges sur un total de 120 à l'Assemblée nationale. Une grande partie de l'opposition ayant boycotté les législatives de 2011. La semaine dernière, le président de l'Assemblée nationale, Guinzou Bandama, avait démissionné avec fracas. Son départ a été suivi par celui de 9 députés qui dénonçaient la destitution de 3 députés frondeurs qui ont créé un courant nommé PDG Héritage et Modernité. Ce courant a annoncé son intention de présenter un candidat face à Ali Bongo Ondimba, qui est lui-même candidat à sa propre succession à la présidentielle prévue cette année.
Abus sexuels en Centrafrique, le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire sous de nouveaux soupçons d'abus sexuels en RCA, évoqués par l'ONU la semaine dernière et visant des militaires français. Et toujours dans ce même registre, 9 Djiboutiennes mènent une grève de la faim en France pour dénoncer des viols par des militaires dans leur pays, Djibouti. Selon le gouvernement de Djibouti, ces allégations n'ont aucune crédibilité. L'Algérie défend son principe de non-intervention militaire hors de ses frontières dans un message du président Abdelaziz Bouteflika au roi d'Arabie Salman avec qui les relations sont tendues sur le Yémen et le Liban. Alger a refusé de déployer des troupes au Yémen dans le cadre de la coalition arabe menée par l'Arabie Saoudite pour soutenir le président yéménite Abdelrabou Mansour Hadi qui fait face à une insurrection de rebelles chiites houthis soutenus par l'Iran. Actualité aux États-Unis, les électeurs du Wisconsin votent aujourd'hui pour les primaires républicaines et démocrates à la présidentielle de novembre. Côté démocrate, l'ex-secrétaire d'État Hillary Clinton semble avoir abandonné tout espoir de gagner dans cette élection où le sénateur du Vermont a donné grand favori, le sénateur Bernie Sanders, bien sûr. Et elle se concentre sur la prochaine primaire dans l'État de New York. Par contre, côté républicain, le milliardaire Donald Trump en tête dans la course à l'investiture républicaine a battu hier une campagne effrénée pour éviter une défaite face au sénateur du Texas, Ted Cruz, lui aussi donné favori, Morgan Guiriec.
Le Wisconsin n'accorde que 1,7% des délégués pour l'investiture républicaine. Selon les derniers sondages, Ted Cruz, sénateur ultra-conservateur du Texas, est en tête avec 40% contre 35% à Donald Trump. John Kasich, gouverneur de l'Ohio, est crédité d'environ 18%. Monsieur Cruz, héros du Tea Party, bénéficie du soutien du gouverneur Scott Walker, qui ratisse large dans les banlieues de Milwaukee, la plus grande ville du Wisconsin. Une victoire de Cruz ne va pas pour autant bouleverser la donne. Pour le moment, il a gagné 8 consultations et 466 délégués, alors que Trump s'est imposé dans 20 États, remportant 739 délégués. Pour décrocher l'investiture, il leur faudra atteindre 1237 délégués.
Merci Morgane Guillouillet. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.